Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Merci beaucoup, en tout cas, d'être là. Merci, Cléo.
Oula, ça commence vraiment très très mal.
Mais en même temps, on n'a pas idée. Enfin, je comprends tes parents, tu vois. Ils se sont dit, OK.
Ça fait 30 ans de vie que tout le monde, tous les gens m'appellent Chloé en permanence.
Écoute, on m'appelle Florent.
Ouais.
Parce que c'est mon nom, tu vois.
Oui, donc
je comprends. Et ouais. Désolé, je vais faire très attention.
Je ne t'en tiens pas rigueur. T'avais le droit à une erreur.
Fourche.
Maintenant, t'as plus le droit à attention. Sinon, je deviens méchante.
Donc, Cléo, donc.
Oui.
Tu es la voix derrière le podcast Championne du Monde.
Absolument.
Que j'ai découvert un peu par hasard la semaine passée. Et figure-toi que je vais travailler avec le fournisseur du player Eurosport.
D'accord.
Et en fait, ils m'ont envoyé vers les podcasts d'Eurosport pour me montrer un petit peu comment ça marchait.
Ouais.
Et j'ai cliqué un peu par hasard sur Championne du Monde. Tiens, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce podcast. Chez Mad, on en avait fait un, tu sais, aussi,
avec
le sport au féminin.
Absolument.
Et je m'étais dit, allons écouter. Et en fait, j'ai été hooked. Tu vois, vraiment, tu m'as pris, t'as fait, allez, viens, maintenant. Vraiment, dès la première interview. Et je me permets de te le dire parce que, en fait, il n'y a pas beaucoup de bons intervieweurs, je trouve, en France.
Ouais. Tu vas te faire des ennemis en disant ça.
Non, mais c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Enfin, tu vois, des intervieweurs que j'aime bien suivre.
Ouais.
Surtout dans le podcast, en fait, j'ai un peu l'impression qu'il y a un peu cette mode de... Bah, c'est un truc qui est facile, entre guillemets, à produire,
c'est
quoi.
Clair,
tu vois.
Bien sûr.
Il suffit de trouver un guest. Bonjour tout le monde.
Ah, ouais,
je crois qu'on est attaqué par...
Ça, c'est un
bot, n'est-ce pas? Et est-ce qu'on a envie d'être suivi par des bots? Non.
C'est des faux gens? Ah oui, ouais. D'accord. Parce que là, ça fait bloup, bloup, bloup.
Est-ce que
tu
crois que c'est à nouveau Six-Face ou pas?
Bah écoute, je trouve que ce live prend une mauvaise tournure. Mais bon.
Mais c'est de ta faute?
Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis gentille, je viens, je me prête au jeu, je prends le petit micro et voilà, c'est tout. Hein, moi, je...
J'ai viré la box de cette là. J'espère que ça va... Voilà. Sinon, à mon avis, ils vont sonner pendant 4 ans, les mecs.
C'est vrai. Ah, tu vois, on n'a plus la radio, mais du coup, on a les bots qui font des petits bing-bing.
Il y a un homme gris derrière vous. Merci, Nico.
Il y a un homme gris. Oh, putain.
Voilà. Faut pas croire tout ce que le chat raconte.
C'est vrai.
C'est un peu la...
Dis des bêtises.
Oui, c'est un peu le truc.
OK.
Et donc, ouais, j'ai un peu l'impression que, surtout dans le podcast, comme c'est un truc un peu facile à produire,
ouais,
entre guillemets, il y a plein de gens qui se disent... Comment dire, qui font des podcasts d'interview plutôt pour parler d'eux que pour laisser parler
les gens,
les invités.
Ouais.
Ça te parle ou pas?
Tu penses?
J'en ai 2-3 en tête, ça me saoule, mais
c'est,
je vais pas,
vrai,
les citer parce qu'en fait c'est pas très grave, mais c'est juste. Ok.
Bah je sais pas. Après, je comprends, et d'ailleurs ça a été moi ma réflexion aussi en lançant. Waouh!
Tiens, je t'ai mis de la lumière.
Oh. Déjà que je suis un peu blanche, alors là si tu veux. ouais, non, mais je comprends parce que moi c'est vrai que la démarche première ça a été aussi de partir sur de l'interview parce que c'est plus simple. Et puis le côté après, moi j'aimais quand même bien le côté interaction et puis ouais. Après moi ça m'intéresse en fait de faire parler les gens, donc forcément je trouvais ça cool, mais je peux comprendre, ouais, qu'on parte plus facilement sur de l'interview. Toi-même tu fais de l'interview,
bah oui,
alors, donc
j'espère que vraiment, en fait ça me, je déteste, je sais pas si parfois tes invités te font ça, mais où ils me renvoient les questions.
Pas tant.
Ok.
Non, ça va.
Ouais, dans mon podcast de Daron, parfois, t'as vraiment, je pose une question et en fait, la personne en face, elle me pose également la question.
Ouais.
Et donc ça me saoule, tu vois, il me dit, bah, je sais pas trop ce que t'en penses. Surtout au début, tu sais, souvent, alors, la plupart du temps, je le cut, tu vois.
Ouais.
Parce qu'en fait, il faut un peu jouer le jeu, mais j'ai juste envie de leur dire, arrête, c'est pas, ça n'est pas le concept.
Oui.
Le concept,
oui,
c'est,
oui,
toi,
oui,
qui parles.
Ouais, après moi je trouve ça plutôt cool parce que du coup ça veut dire que tu vois ils se mettent dans une forme de discussion aussi.
Ouais.
Alors c'est peut-être de la réserve aussi de prime abord,
ouais,
pour
c'est
éviter d'avoir à répondre. Et du coup ils te renvoient le truc genre bon vas-y démerde-toi avec tes questions, tu vois. mais après ouais, enfin je sais pas, quand moi je trouve ça cool des fois quand aussi ils te renvoient des questions comme si t'étais dans un échange.
Ouais.
Voilà, mais ça m'arrive pas tant que ça, je dois t'avouer.
Bon, comment t'en es venue, Cléo, à te mettre... parce que c'est pas ton métier,
pas
à
du
la base.
Tout. Non, absolument pas.
Il faut que tu m'expliques. Parce que là, c'est moi qui t'interview. Hein.
Ouais.
Je le fais souvent.
C'est rigolo. Pour comment en fait, c'est un... comment ça fait très longtemps, en fait, que je voulais aborder cette thématique du sport au féminin, parce que le sport au féminin, c'est ma vie. Non, c'est ma vie. Mais non, en fait, dans ma famille, c'est juste un truc très perso. En fait, ma maman est professeure de PS. Okay. Mon papa aussi, d'ailleurs. Et ma sœur est une ancienne triple championne du monde de boxe. La fille de ma sœur, donc ma nièce, est à l'INSEP en ce moment. Elle prépare, elle essaie de se qualifier là pour Tokyo en taekwondo.
Ah oui.
Donc voilà, c'est grosse mif dans le sport.
Comme sport, tu veux.
Non, alors moi, j'ai le vilain petit canard.
Comment tu fais pour gérer?
Non, moi j'ai fait... En fait, j'ai commencé le sport, j'avais 3 ans. Donc tu vois, la baby gym en faisant des roulades, tu sais, sur les tapis tout mou et tout. Mais j'ai fait 15 ans de gymnastique rythmique. À bon niveau, pas haut niveau. J'avais eu l'occasion d'aller en pôle, mais j'avais refusé.
En pôle
espoir, là, dans des crêpes, en fait, pour professionnaliser la discipline, on va dire.
Ça t'intéressait pas ?
Bah, en fait, j'étais toute petite. J'avais 11 ans, je crois, ou 12 ans, quand ils m'ont détecté. On dit détecté, c'est très étrange comme mot. Et je pense que j'étais pas prête. Puis ma personnalité était un peu, j'étais trop timide. Enfin voilà, je me sentais pas de me lancer là-dedans. J'étais toute petite, quoi. 11 ans, c'est chaud quand même. Voilà.
Mais c'est la vie de plein de.
Bah, bien sûr. Généralement, oui, ceux qui sont au niveau aujourd'hui, pas toujours, mais souvent ils ont commencé tout petits, ils ont été détectés très vite et ils sont allés dans des pôles espoir rapidement.
Quitter la famille.
Exactement. Et je crois que moi j'étais pas trop prête à ça. Donc voilà. Donc je suis restée à un niveau totalement basique, on va dire.
Et pour le coup, ta frangine l'a fait.
Non, alors dans la boxe, c'est différent parce que la boxe féminine, ça a mis énormément de temps déjà à se professionnaliser. Et en plus, son entraîneur, c'était mon père. Donc voilà. Donc si tu veux, c'était vraiment 100% mif. Mais en fait c'est venu de là juste parce que ma vie, mon histoire et j'avais envie de parler de cette thématique là et en fait on s'est lancé à deux avec Valentin que vous ne voyez pas mais qui est caché en fait qui est là-bas, je pense que s'il passe la tête vous le verrez quelque part par là.
En train de travailler.
Non. Mais on s'est lancé tous les deux. Je pense que lui m'a donné aussi la motive de le faire parce que je pense que je croyais pas trop en moi au début et je me suis dit mais pourquoi le faire moi alors que c'est pas mon métier, je suis pas journaliste. Moi je viens des métiers de la communication, alors c'est pas très éloigné mais bon c'est pas la même chose quand même. Mais lance-toi, t'as plein de choses à dire. Donc en fait je me suis dit bon allez vas-y, t'as raison. J'avais quoi, 28 ans à l'époque. Je l'aurais probablement pas fait avant et là j'étais mûre pour le faire. Et puis on s'est lancé quoi. Donc voilà.
Mais alors l'idée de faire un podcast d'interview, ça te venait d'où ?
L'idée du podcast en fait, elle arrivait assez rapidement parce que déjà pour une raison très simple, c'est que ça a demandé peu de moyens. Moi j'avais pas énormément d'argent à investir pour dès que tu veux faire de la vidéo et tout c'est quand même pas les mêmes budgets, t'es obligé de si tu veux vraiment faire un truc quali t'es quand même obligé d'investir un peu dans du matos cool. Là le podcast effectivement avec un investissement de départ correct tu fais un truc super quali et...
Je vous renvoie vers mon épisode où je vous ai fait un live spécial question-réponse avec le matos quoi.
Bah oui exactement,
je vous mettrai les liens enfin, ou je sais pas, démerdez-vous dans le chat vous, s'il y a quelqu'un pour venir mettre le lien ça serait cool. Moi si vous écoutez un podcast je vous le mettrai dans les notes.
Donc voilà en fait c'est juste ça et puis en plus c'est comment le podcast commençait vraiment à se développer aussi en France à ce moment-là, on l'a lancé il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans et demi.
Ouais.
Il commençait à en avoir de plus en plus et en fait en faisant un petit benchmark des podcasts de sport qui existaient, on s'est rendu compte qu'il y avait pas de podcast déjà animé par des femmes. Donc, dans le milieu du sport, même dans le podcast, effectivement, il y avait quasiment pas de podcast animé par des femmes.
Alors que le podcast, c'est un média plutôt assez féminin. Très féminin.
Ouais.
Même
plutôt.
Très.
Ouais.
En fait, si tu compares par rapport à YouTube, par exemple, c'est vraiment le jour et la nuit.
Ouais. Bah, ça m'étonne pas.
Pourquoi ça t'étonne pas?
Bah, je sais pas. Je trouve qu'il y a un truc. C'est très bizarre ce que je veux dire, mais on te voit pas, en fait, aussi. Mm-hmm. C'est plus intimiste, je trouve. Il y a un truc de proximité qui est plus important. C'est peut-être moins show off aussi que de la vidéo ou ce genre de choses. Donc peut-être que les Enfin non, j'en sais rien en fait. Si, mais oui, peut-être qu'on se sent plus à l'aise et plus libre aussi peut-être, tu vois, d'exprimer ce que t'as envie d'exprimer.
Et pour moi, le dernier truc, c'est qu'il n'y a pas de commentaires.
Et il n'y a pas de commentaires, ouais, c'est
comme
clair.
Comme sur YouTube.
Ouais, exactement. Ouais, bah, tu peux avoir des commentaires après sur les plateformes. Ouais. Mais bon,
mais t'as pas une plateforme, non. Tu vois. Si tu veux ne pas avoir de commentaires, tu peux faire en sorte de ne jamais avoir le moindre commentaire sur...
C'est vrai.
Enfin, voilà.
Ouais, donc okay. Voilà. Donc en gros, voilà, c'est venu de là. Et puis il n'y avait pas de podcast sur le sport féminin. Alors c'est pareil, c'est toujours compliqué de dire le sport féminin, ouais. Parce qu'il existe pour moi un sport. Donc c'est un peu.
Ouais.
C'est un peu. La dualité est compliquée à faire, même si nous on fait du sport féminin. Mais voilà,
le sport c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de sport féminin ni de sport masculin. Je tiens à le dire. Il y a du sport.
Mais voilà, c'était juste pour mettre en avant des personnalités du monde du sport féminine. Et parce qu'en fait aussi, c'est un fait dans le sport. Il y a très peu de femmes dans les métiers du sport. Alors, dans les athlètes, c'est différent parce que la parité est plus respectée. Mais dans les métiers du monde du sport, il y a très très peu de femmes. Et donc, je trouvais ça important aussi de les mettre en avant et de pas communiquer, enfin, de pas interviewer que des athlètes, en fait. Oh, bah, je crache, dis donc.
C'est sympa, c'est personne l'avait vu. Bon, voilà.
Pardon,
si...
Je bois un petit coup d'eau.
Pardon. Voilà, moi c'est ce que j'ai aimé en championne du monde, c'est qu'il y a un côté très naturel chez Cléo qui marche bien. Ouais. Mais t'as raison, en fait, il y a une parité, mais en revanche en termes de temps médiatique,
absolument.
Voilà.
Mais ça c'était un autre problème, c'est-à-dire qu'après dans le métier, on va dire, en tant que quand t'es sportif professionnel, c'est un fait, hein, les hommes sont quand même encore plus mis en avant et médiatisé que les femmes.
Et donc il y a moins d'argent, et donc...
C'est le serpent qui se mord la queue. On est dans un cercle vicieux.
Il y a moins de rôle modèle, etc.
Ouais. Bon, ça progresse, encore une fois, tout le monde dit ça à chaque fois. Bon, ça progresse, c'est vrai, mais c'est très lent, et en fait, parce qu'on part de beaucoup plus loin aussi, et... Donc, ça va demander encore du temps.
Il faut regarder, il faut voir le verre à moitié plein, sinon, en fait, à la fin, enfin, moi, j'ai juste envie de me jeter par la fenêtre.
Quoi. Ah, oui, clairement, je pense que... Enfin, l'optimisme, c'est la vie. Est-ce que j'ai beaucoup de phrases à la con comme ça ? Oui, probablement.
Mais donc, alors, ok, une fois que vous avez décidé tous les deux de faire ce podcast, ouais. comment tu décides à te lancer ? Comment tu vas chercher ? Je crois le plus important, c'est d'aller chercher tes premiers invités, quoi.
Ouais. En fait, tout simplement, je crois qu'on avait dû faire une liste. C'est marrant, je lis les commentaires en même temps parce que c'est fou ça. T'entends les bloops qui arrivent, donc c'est très.
Ça, c'est les gens qui nous follow. Bonjour.
C'est
Galou,
vrai. Les bip bip.
Ouais. Bonjour à Galou. Bonjour Solovins. Bonjour. Bonjour.
C'était quoi la question ? Voilà, ça y est. Non, c'est comme les enfants. Je regarde autre chose et j'oublie.
Comment tu vas chercher tes premières invitées ?
En fait, je crois qu'on avait fait une liste de personnes qu'on aimerait approcher. On avait écrit plein de noms et en fait après c'était à la mano, quoi. Alors, je pense que j'avais dû envoyer des messages principalement sur Instagram en me disant que j'allais probablement pas être lue. Mais, étrangement, rapidement, alors qu'on n'existait pas et que du coup j'avais même rien à proposer, à montrer, ça se trouve, ça allait être une grosse merde. Et non, mais c'est vrai, tu vois, c'est compliqué. Et en plus, la première à nous avoir fait confiance, c'est Clémentine Sarlat, qui est journaliste de profession quand même, et qui, moi, était un peu une référence et une sorte d'idole dans le milieu du journalisme sportif. Et elle a dit oui tout de suite. En fait, elle était en pleine, elle, parce qu'elle changeait, c'était le moment où elle changeait vraiment de voix, on va dire. Et elle m'a dit ok, enfin, elle a même pas réfléchi, elle m'a même pas demandé des trucs, elle a accepté direct. tu vois.
Ça vous apprendra, je fais tout tomber.
On parlait de fantômes à moitié là tout à l'heure. Non, ça va. Et voilà, donc ça a été ma première invitée, et puis quelle invitée, quoi.
Oui, parce que pour remettre un peu de contexte pour les gens qui savent pas, Clémentine Sarlat, donc, a été une journaliste sportive pendant des années, des années, chez Stade 2, notamment.
Ouais.
Et elle est sortie, c'est elle qui est sortie du bois, pour dénoncer le sexisme et plein d'autres saloperies qu'elle a vécues au sein de, quand même, en plus du service public, quoi, donc c'est un peu particulier, au sein de cette rédaction, qui lui a valu un sacré buzz et aussi pas mal de...
Ça a dû être très compliqué pour elle, mais je trouve ça... C'est incroyable qu'elle ait fait ça, et merci à elle aussi, parce qu'elle fait avancer les choses, en fait.
Et d'ailleurs, j'étais à deux doigts d'interviewer Marie Portolano. avant la diffusion.
Ah merde.
Avant la diffusion de son
de son docu.
De son docu. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Elle dit, ouais, je vais laisser la tempête. Donc, ouais, en gros, Marie Portolano est une journaliste de Canal+, qui a quitté Canal pour M6, là, et qui a sorti ce documentaire sur les journalistes sportifs, justement. Absolument. Qui s'appelle « Je ne suis pas une salope ».
Je suis journaliste.
Je suis journaliste. Et qui a fait un sacré buzz, ouais, ces dernières semaines.
Ouais, c'est clair.
Et notamment le pauvre, Pierre Ménès,
ouais,
qui s'en est vraiment pris plein la gueule et qui est aujourd'hui suspendu de l'antenne, je crois.
Ouais, je crois, il me semble, ouais.
J'ai cru voir passer ça. Donc Clémentine Sarlat.
Ouais.
Et comment ça se passe? Tu vois, c'est les gens qui nous follow. À chaque fois, on a un petit blip. Bonjour. Merci Orlane pour le follow.
Ah, Orlane qui va bientôt bosser avec nous d'ailleurs.
Ah.
Je fais un petit coucou.
T'as ramené ta commu.
Bah écoute, j'avoue. Ouais. Tu vois, je pensais pas, mais c'est ma première fois sur Twitch. Bah écoute, je suis ravie.
Ah, mais c'est trop bien Twitch.
Salut, voilà.
Bah bonjour.
Salut Orlane.
Oh. J'ai retouché le micro.
Ah, oh, c'est bon.
Je sais pas, c'est bon, c'est bon. Que je gère ce truc, ouais, c'est très chiant. Et une fois que t'as Clémentine Sarlat, après j'imagine que c'est plus simple entre guillemets d'aller contacter des sportives, ou comment ça se passe?
Oui et non, parce qu'après au début on avait contacté pas mal de monde, donc l'épisode de Clémentine il était pas encore sorti. En fait, c'est comme si j'avais rien, hein, ouais, très clairement. Mais non, en fait, ça a été assez facile et je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi facile. Alors, avec des millions de guillemets, mais en fait, toutes les personnes qu'on a contactées au début, elles ont été hyper, qui nous ont répondu, enfin, qui ont vu les messages, ouais, parce que des fois, bon, bah, tu vois pas, ouais, ou t'es trop sollicité, donc ça arrive. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ont vu le message l'ont reçu hyper positivement et ont dit oui quasiment à chaque fois. Donc, en fait, le début s'est fait assez simplement et les premières invitées, j'ai pas eu l'impression de galérer à trouver des invités sur le début, donc franchement, bah merci à elle en tout cas de nous avoir fait confiance, alors que bah voilà quoi, c'est
trop bien,
c'est compliqué.
On écoute, parce que j'ai même pas encore fait écouter aux gens la,
oui,
la bande annonce. On vous met la bande annonce de la saison 3, parce que vous êtes à 3 saisons maintenant, ouais, ça rigole pas, vous êtes un...
Bah après il y a que 10 épisodes par saison, hein, mais bon.
Bah ça, ouais, fait quand même 3 ans.
Ça fait, ouais, enfin, 2 ans. 3... Ça fait, ça... Oui, ou là, c'est le...
Oui.
Oui, c'est ça.
Pour un podcast, c'est vieux, tu sais.
Ouais.
À l'échelle d'Internet, franchement, tout ce qui a plus d'un an, c'est déjà, c'est vieux. Donc, je vous mets le... C'est que du son, hein, bien sûr. Ouais.
Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Hello à tous, bienvenue aux anciens et à tous les petits nouveaux qui nous rejoignent pour la saison 3 de Championne du Monde. Comme vous l'aurez compris, je suis Cléo, j'ai bientôt 30 ans, aïe aïe aïe, et je suis une fan un peu dingo de sport féminin qui a voulu il y a 2 ans se lancer dans la merveilleuse aventure du podcast. Alors si vous nous attrapez en cours de route, il existe déjà 20 épisodes, plus des hors-séries. Si vous connaissez pas encore le podcast, l'idée c'est de vous faire rencontrer des femmes hallucinantes qui sont des vraies protagonistes du sport d'aujourd'hui et de demain. Des nanas passionnées de sport, mais pas forcément que des sportifs professionnels. On parle parcours, mais surtout sujet de société. Et bien sûr, on se questionne souvent sur la place des femmes dans l'industrie du sport, mais pas tout le temps non plus. Vous l'aurez aussi remarqué, notre 3e saison est diffusée par Eurosport, et ça, c'est vraiment très cool. On espère que cette nouvelle saison va vous plaire, et surtout, pour qu'on existe, on a besoin de votre soutien, de vos partages, de vos messages, en gros, de votre love. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, vous tapez Championne du Monde sur Insta, sur Facebook ou même sur Twitter, et vous nous trouverez. On aime bien échanger avec vous, donc surtout, n'hésitez pas. Allez, à très bientôt.
Ce petit bruit.
Bon voilà, ça donne une bonne idée, ouais, de ce que vous faites. Et effectivement, vous interviewez pas que des,
non,
sportives, vous allez, mais c'est, il y a que des femmes, hein, si je me trompe,
pas, il y a que des femmes sauf l'avant-dernier épisode où c'est un couple,
Ah oui.
Donc il y a un homme.
Oui, c'est voilà. Vrai. Mais c'est, vous allez aussi interviewer des spécialistes, des soigneuses.
En fait, c'est vraiment assez vaste. Tu vois, il y a des Clémentine Serra, enfin ça peut être journaliste sportive. Ouais. T'as des spécialistes de santé. On avait interviewé Martine Duclos, qui est une femme incroyable, qui est médecin du sport, endocrinologue, enfin qui a beaucoup de spécialités d'ailleurs. Qui est juste hallucinante. C'est assez divers. On a fait Corinne Dubreuil, qui est photographe professionnelle, spécialisée dans le tennis. On essaie des profils assez variés, mais qui ont forcément, enfin toujours un lien avec le sport, quoi.
Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un épisode que tu voudrais recommander aux gens pour démarrer? Ouais, je sais, c'est vraiment...
Ah, c'est toujours une question, ça.
C'est une question horrible, hein. C'est comme si tu disais... Quel est ton enfant préféré?
C'est ça. C'est compliqué, parce qu'en fait, ça va vachement...
Tu peux en donner deux, trois, quoi, tu vois. Mais est-ce qu'il y a des invités qui t'ont marqué particulièrement, quoi?
Alors ça dépend ce que vous recherchez aussi, parce que... Ça dépend quel sport vous aimez, tu vois, c'est un peu... moi, un épisode dont je parle souvent et qui m'a vraiment marqué, c'est celui avec Gabriella Papadakis, qui est championne...
Que j'ai pas écouté pour le coup.
C'est vrai. Ouais. Écoute-le. Okay. qui est une patineuse, donc patineuse de danse sur glace. Il est très long, je crois, pour le coup, cet épisode. Donc, si vous voulez commencer en douceur, n'écoutez peut-être pas celui-là, parce qu'il fait 97 minutes.
Ouais.
Et qu'on a beaucoup, beaucoup parlé. On a parlé de beaucoup de sujets. En fait, c'est une nana que j'ai trouvée incroyable. En fait, la rencontre humaine a été assez folle. Et du coup, c'est vrai que ça m'a marqué, moi, en tant que personne. J'ai eu l'impression que cette rencontre m'avait vraiment nourrie, en fait. Donc, c'est pour ça que souvent je le dis, et je trouve que c'est une femme incroyable et qui a pas peur de prendre la parole sur certains sujets qui pourraient potentiellement comme ça être tabou. Oh là là, on parle d'énormément de choses. C'est vraiment, ça va de... ça parle justement de c'est quoi être une patineuse aujourd'hui, à des thèmes comme la sexualité. 97 minutes, hein, c'est long quand même. on raconte beaucoup, beaucoup de choses. Donc... c'est un épisode moi que j'ai adoré tourner, et c'est une femme que j'adore. Après pas pareil, je parlais de Martine Duclos justement. Ouais. Sur la partie plus médicale, on va dire, c'est pareil, c'est un épisode qui m'a vachement marqué parce que la personnalité de cette femme est hallucinante. Elle a un parcours de dingue, c'est vraiment une référence dans son domaine.
Ouais.
C'est vraiment un épisode que je recommande parce que très intéressant, et on a parlé justement aussi de tous ces sujets en lien avec la médecine et la féminité, le corps de la femme, les hormones, toutes ces choses-là. C'était super intéressant, quoi. Elle est passionnante. Donc voilà. Puis franchement, après, j'aime tous mes épisodes pour différentes raisons, tu vois, mais je trouve que tout est intéressant, et en fait, à chaque fois, on essaie de prendre quand même un angle différent pour pas que ce soit non plus redondant. Donc on n'est pas toujours sur du parcours de femme, c'est que des fois vraiment on va se centrer sur des thématiques de société ou des sujets bien précis, pour essayer que ce soit toujours intéressant et qu'on apprenne des choses dans chaque épisode. Donc tous les épisodes sont intéressants à leur manière, quoi.
Trop bien. et depuis cette saison, en fait, vous êtes alors comment tu dis, diffusé, c'est ça?
Ouais, par Eurosport. On est diffusé par Eurosport.
C'est Eurosport qui est venu vous voir en disant
Ouais, ouais, une femme merveilleuse. Je suis entourée de femmes merveilleuses, c'est génial. Il s'appelle Aude Baron qui est venue nous chercher. C'est vrai?
Oui.
Et voilà, et qui a eu confiance, pareil, en le projet, et qui a souhaité nous prendre sous sa petite aile des podcasts Eurosport, et c'est trop cool. C'est vraiment, je suis trop contente.
Ça vous ouvre des portes ou... Enfin, vous aviez besoin de ça, en fait?
Non, on n'avait pas. Enfin, après, pour aller chercher, on va dire, du gros gros athlète, ouais, c'est compliqué en étant encore, parce qu'on est un petit podcast, hein, tu vois, on rivalise pas du tout avec les gros mastodontes du podcast. Donc c'est pour avoir vraiment, on va dire, des grosses personnalités très médiatiques, c'est assez compliqué. Donc ça peut nous aider là-dessus, très clairement. Et puis même, je pense que ça donne un crédit à notre travail, tu vois, qu'une référence comme Eurosport soit venue nous chercher et nous diffuse maintenant, quoi. Donc,
comment t'en es venu à...
Je bois un coup.
Ouais, vas-y. Je voulais te poser la question de, est-ce que dans ta pratique de l'interview, toi, t'as la sensation que t'as progressé, pris du plaisir? Enfin, ouais. Comment tu mesures ta marge de progression ou comment tu la...
Ouah, bah, ouais, carrément. La première interview, j'étais tétanisée. J'avais peur, j'étais stressée. Et puis en plus, c'était Clémentine Sarla, donc. Elle, c'est son métier, elle sait y faire, enfin voilà, elle a l'habitude. Et puis moi, c'était ma première interview, donc j'avais pas du tout l'habitude. Et j'étais vraiment hyper stressée. Et d'ailleurs, le premier épisode, on m'a beaucoup, beaucoup coupé. On a vraiment énormément coupé de ce que je racontais parce que je faisais des phrases à rallonge. Je continue de faire des phrases à rallonge. Ça, c'est un peu un défaut que j'ai. J'avoue, des fois, je me perds un peu. Mais c'était une catastrophe. C'est compliqué. Enfin, c'est un vrai exercice, c'est un vrai métier, quoi. Donc non, au début ça a été compliqué. Maintenant je suis beaucoup plus à l'aise et je prends moi-même beaucoup plus de plaisir à le faire. Je sais que j'ai encore des tics de langage, c'est compliqué, hein, je m'en rends compte parce que quand tu te réécoutes, t'es là genre oh mon dieu, mais quelle horreur. Ah, c'est affreux. Mais non, je suis déjà plus à l'aise et je prends vraiment à fond de plaisir à le faire.
On a tous des tics de langage, en
fait. Ouais, bien sûr, ouais, c'est clair. Mais non, c'est trop cool et je suis, ouais, non, je pense que j'ai progressé, je pense que j'arrive à rebondir un peu plus que je ne le faisais avant, où je suivais très bêtement, tu vois, toutes les petites questions que j'avais notées de peur de me perdre et dès qu'il y avait une question qui était cochée, c'était genre ok, alors question d'après, voilà, tu vois. C'était un peu ça. Bon, après j'ai toujours besoin de mes questions pour me repérer quand même, mais tu vois, j'arrive un peu plus aussi à...
Tu viens quand même, parce que c'est marrant, parce que de ce que j'entendais, j'avais vraiment l'impression que t'étais pas, enfin que tu venais sans fiche, quoi.
Non, j'ai quand même.
Parce que tu te démerdes super bien pour rebondir, quoi.
C'est vrai. Ouais, d'un coup, ça me fait plaisir. Mais non, j'ai quand même, je me fais une petite structure de base avec mes questions, les thématiques que j'aimerais bien aborder, et puis après. Après, si on part sur complètement autre chose, tu vois, ce serait con de revenir absolument à la thématique de base, mais il y a quand même des choses que je note. Puis ça me rassure quand même, tu vois, d'avoir cette espèce de petite feuille conductrice là, ce petit conducteur où tu peux te, si jamais t'as un moment de blanc parce que tu sais pas qui t'as en face de toi, comment la personne va rebondir aussi. Ça, c'est un peu la magie, la magie, la bonne magie ou la mauvaise magie. Mais du podcast, donc des fois tu vas avoir des gens qui sont hyper loquaces, qui vont parler, t'auras même pas besoin de toi de poser de questions, limite ça m'est arrivé là, il y a peu de temps, elles étaient trois.
Un épisode qui va bientôt sortir d'ailleurs, je sais pas, il faut regarder où, un épisode qui va bientôt sortir.
Ouais, elles étaient trois, et en fait moi du coup à un moment donné je l'ai regardé, j'étais là, bon. Et en fait elles faisaient la discussion toute seule et c'était génial, c'était cool. Et après des fois bah t'as des gens qui rebondissent pas trop, qui développent pas trop le propos, donc... Faut s'adapter, quoi.
Il faut.
Tu connais ça.
Oui. Et là, c'est la galère quand t'es.
Ouais.
T'es face à quelqu'un qui répond juste à ta question et qui rebondit pas de lui-même.
Ouais. Qui développe pas et qui reste vraiment dans le cadre de ta question, tu sais, où tu peux pas trop après déborder.
Je sais pas trop si tu fais ça, mais moi, ce que je fais, je ne rebondis pas, je laisse un blanc. Et souvent,
ah ouais.
Bah ouais.
Oh, moi, c'est ma phobie.
Bah justement.
Ah ouais.
Parce que la personne en face, c'est sa phobie aussi.
Ouais.
Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je dis rien et puis je la regarde comme ça. Et puis elle voit bien que je rebondis pas, ça l'emmerde. En fait, elle enchaîne, voilà.
Ouais. Oui, c'est pas con. C'est pas con.
Mais faut réussir à gérer toi-même le silence. Tu...
Moi, je crois que j'y arriverai pas. J'ai tellement peur. En fait, j'ai tellement peur de que les gens soient mal à l'aise. Tu vois, il y a cette espèce de truc aussi où j'ai besoin qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils passent un bon moment. Comme on est vraiment dans une démarche, alors c'est le mot à la mode, mais une démarche quand même qui est bienveillante. On veut pas.
C'est terrible parce que si t'es, c'est un peu le mot.
Ouais, j'aime pas spécialement ce mot, mais c'est quand même, tu vois, ça résume quand même bien l'idée générale. Bonne humeur, on va dire. Voilà, plus que bienveillante, c'est vraiment plutôt bonne humeur, même si des fois on traite de sujets qui sont pas forcément drôles. Hein. Mmh. C'est pas toujours Loliland dans le podcast. Mais voilà, c'est toujours ça me tient vraiment à cœur d'avoir toujours ce truc bonne humeur quand même.
Tu veux dire que tu parles à des femmes de leur expérience de vie et que c'est pas tout le temps bonne humeur comme c'était.
Bah, c'est clair. Oui, mais voilà, après tu vois, ça peut être amené d'une certaine façon. Mm. C'est juste ça en fait. Je trouve que sans que ce soit dramatique, sans que ce soit.
J'écoutais. Il y avait un truc qui m'avait marqué dans l'épisode de Doris Martel.
Ouais.
Donc en fait, qui est thérapeute.
C'est ça se dit, ouais, c'est vraiment son...
C'est pour ça que j'ai bloqué sur le moment, je me suis dit, ok, c'est thérapeute.
Ouais, thérapeute neuromusculaire. C'est une profession un peu particulière, mais c'est son...
Et qui bosse donc avec des équipes NBA, donc qui est vraiment en haut dans le game, quoi.
Ouais.
Et tu parles de la façon dont elle dont elle interagissait avec les joueurs et comment elle a appris justement à interagir, parce que ça dragouille toujours plus ou moins, et notamment, elle s'est fait bolos parce que, à cause de sa tenue.
Ouais, absolument. Ouais, elle racontait ça.
Et je trouve que tu lui t'amènes ça de façon tellement cool et chill. En fait, c'est vraiment bien joué. Quoi.
Ouais, bah merci. Mais après, elle est incroyable, Doris. Mmh. C'est une personnalité géniale, solaire aussi. Tu vois, et elle-même raconte le truc. C'est des choses qui ont été peut-être, enfin même peut-être non, qui ont été compliquées, je pense, à vivre pour elle et surtout pour faire sa place quand t'es en NBA. Il y a pas de femmes, même dans les staffs médicaux. Il y a très très peu de femmes et elle le dit, je crois d'ailleurs dans l'interview, je crois qu'elles sont deux ou trois à officier dans les staffs, donc c'est super compliqué. Mais pareil, tu vois, elle le fait avec une détente, avec un recul qui est extraordinaire et limite, enfin moi j'ai pas l'impression que je l'amène sur un truc, elle le fait toute seule, j'ai l'impression, tu vois, parce que elles sont dingues, toutes ces nanas. Moi, je sais pas, je les admire tellement. Je suis là, genre, oh, putain, c'est incroyable. Elles ont des vies incroyables. Elles ont... Enfin, c'est toutes des personnalités...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Exceptionnel, quoi, tu vois. Personnalité, au début, on parlait beaucoup sur le mot badass, mais c'est vraiment ça.
Ouais.
C'est, ouais, enfin voilà.
J'ai l'impression que... C'est passé de mode badass.
Badass un peu, ouais.
Vraiment mais... trop utilisé.
Ouais, ça a été, c'est vrai que ça a été utilisé un peu dans tous les sens, mais je trouve que ça résume bien l'essence du propos. Et... Enfin voilà, c'est... Ouais, je sais pas, moi je l'aime bien encore. Mais moi je suis vieille, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai même pas 30 ans, mais je suis une boomer.
T'es vieillarde.
Vieillarde, je sais pas, mais.
Pourquoi tu dis ça?
Non, je rigole. Non, je plaisante. Non, mais par rapport aux réseaux sociaux. Non, parce que c'est la première fois que je fais Twitch. Je savais même pas à quoi ça ressemblait. Donc là, je découvre sur ton écran. Faudrait que je m'y mette. Enfin, je m'y mette ou pas, d'ailleurs. Mais...
Bah, c'est parler dans un micro, t'as l'habitude.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Finalement.
Mais il y a quand même de la vidéo. Hein.
Ouais, un peu. Et mais t'es même pas obligé de la mettre.
Ah ouais?
Bah,
c'est non. Pas le principe de Twitch?
Non, parce qu'en fait, on pourrait très bien être en train de... Enfin, tu vois, on pourrait faire un stream audio. Alors les gens ont l'habitude qu'on mette mais
la
vois,
vidéo,
c'est
ouais,
comme
c'est plus sympa quand même.
Bah ouais, mais on pourrait mettre autre chose.
Ok.
Tu vois, on pourrait se couper.
Tu peux mettre n'importe quoi, genre des vagues.
Ouais,
juste
bah, tu
des
peux mettre ce que tu veux sur ton ordinateur.
Ouais. C'est dingue.
Regarde, tu vois.
Ah,
on pourrait faire
on
ça.
On a disparu. C'est fou.
Et voilà, et en fait, on pourrait parler, les gens nous entendraient quand même.
D'accord. Bon, bah, écoute. Petite digression, excusez-nous.
Non, mais c'est.
On pourrait mettre une peluche.
Tout à fait, Nico. Nico qui est donc boulanger de son état à Brest, si tu veux.
Ok.
Et qui vient souvent sur mes streams avant d'aller se coucher. Parce que
bah attends, j'allais dire se coucher, mais il est midi. Mais oui, quand on est... Oui,
il est levé plus tôt.
Bah ouais, oui, c'est vrai. Bon, bah bonne nuit. Enfin,
pas tout de suite.
Pas tout de suite.
Il reste encore un petit peu.
Ouais, ça.
Commence pas à dire aux gens de partir.
Non, restez. Pardon.
Est-ce qu'il y a des invités que t'aimerais avoir?
J'ai pas bossé aujourd'hui, dit.
Ah oui, parce que c'est... Bah bravo. C'est férié. Et
ah,
comment
oui.
On fait pour avoir notre pain, nous, alors
c'est... Ah, attends, les boulangeries à côté de chez moi, elles sont ouvertes, là. Enfin,
ouais, mais peut-être pas à Brest. Écoute.
Peut-être.
Qui sommes-nous pour juger?
Ouais, c'est clair. Des gens que j'aimerais avoir, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a plein de gens que j'aimerais avoir. Là, tu veux un nom comme ça?
Ouais. Non, mais ce serait qui ton.
Le top of the top, ouais. Ça c'est pareil, c'est une question qu'on m'a déjà posée et je sais pas répondre.
Moi aussi.
Donc, franchement, je suis incapable de te donner un nom. Vraiment. J'ai pas d'idole pour le. Enfin. je rêve pas d'interviewer une personne en particulier, si tu veux. Je trouve ça d'ailleurs plus sain. Ouais. Et je pense que je serais très mauvaise d'interviewer quelqu'un comme ça que j'idolâtre. Enfin, que j'idolâtre. Ou en tout cas... donc non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Des fois, je trouve ça... pas plus intéressant, mais d'interviewer des gens qu'on connaît pas du tout, qui sont dans l'ombre, et qui ont des postes de malade à responsabilité. Ouais, non, je sais pas. Okay. Franchement, je suis désolée, je suis pas bonne cliente sur cette question, mais j'ai pas vraiment. Et puis c'est compliqué parce que là, à l'heure actuelle, on est en français, donc c'est du podcast francophone. Mais dans l'idée, pourquoi pas aussi faire en anglais, tu vois. Donc là, ça ouvre le champ des possibles à l'international.
You are fluent.
I'm not fluent, but I speak quite good. Non.
Je sens ton petit point d'accent british là.
Ouais. Non, je suis pas.
J'ai fait un stage in London.
Absolutely. Ouais, c'est vrai.
C'est bon.
Ouais. Ouais, j'ai fait beaucoup de séjours linguistiques quand j'étais plus jeune. Mais non, ça, tu vois, ce serait cool aussi de pouvoir faire des épisodes en anglais et ouvrir le champ des possibles parce que là pour le moment, faut que les gens parle français, qu'ils soient pas forcément francophones, mais en tout cas qu'ils puissent parler français, donc ça limite un peu. Donc
t'as déjà fait un, moi j'avais fait un sondage pour voir un petit peu les gens, si les gens parlaient anglais ou pas dans mon audience.
Ouais.
Et c'était plutôt cool. Hein. Enfin, je pense que les gens qui écoutent des podcasts en général, ils ont pas vraiment d'autre choix que d'écouter des podcasts en anglais parce qu'il y a tellement de choix là-bas.
C'est clair. Là-bas.
Que forcément tu peux t'y mettre, quoi.
Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ah bah oui, l'offre elle est encore plus pléthore. Déjà en France maintenant, il y a vraiment beaucoup de contenu, quitte à s'y perdre un peu d'ailleurs, hein, parce que c'est vrai que des fois il y a tellement de choses pour c'est compliqué de s'y retrouver, mais alors là-bas eux pour le coup c'est vraiment beaucoup plus ancré aussi. Donc,
il y a un équivalent de ton podcast aux US ou au UK?
C'est une bonne question. Je me souviens, il y a 2 ans, quand on avait regardé, on avait trouvé des podcasts qui parlaient de sport, de sport féminin. J'ai plus le titre en tête, mais je sais qu'il y en avait. Ouais, je sais qu'il y en avait et que ça se développe. Il y a des sportives aussi américaines qui
lancent leur podcast,
qui sont lancées, dont une footballeuse américaine qui a lancé son propre podcast.
Une footballeuse de soccer?
De soccer, oui, okay. Tout à fait. Oui.
Je sais même pas. Aussi, ça existe, non, le foot US féminin?
Féminin. Alors, tu vois, là, tu me poses à moitié une colle.
Je sais pas.
C'est bien, je suis censée être au courant du sport féminin.
c'est niche, hein, pour le coup. Hein.
Ah, bah oui, c'est clair. En tout cas, c'est pas. Bon, je pense que ça doit exister, mais.
Cherchons.
Ouais.
Ah, elles sont sans moitié à poil.
Ah ouais, oh là là, tu vois, ça c'est typique. Là, si vous cherchez foot US féminin, la première photo c'est une meuf à poil. Mais c'est compliqué.
Pas à poil.
Elle est pas à poil,
mais. Bikini, quoi.
Oh là là.
Non, ça va. Enfin, tu vois, ça a pas l'air d'être là. Mais vraiment? Ah non, je sais ce que c'est. C'est du.
Lingerie Football League. C'est
du flag. C'est du flag football.
Ouais.
Bon, après, je ne vois pas vraiment l'intérêt de les foutre en culotte, hein, tu vois. Mais,
non, très
mais,
clairement.
Tu sais, c'est ce truc où il faut que tu chopes le. C'est ça, non?
Ah, elles ont.
Non, peut-être pas. Peut-être que c'est une connerie, hein, mais. Tu vois ce que c'est ou pas? T'as jamais joué à ça? Au flag football?
Ah, si, dans la cour de. Enfin, dans la. Si, quand tu mets un truc derrière et tu dois choper le.
Plutôt que de se plaquer.
Oui, tu dois choper
le. On s'attrape le pompon. Mais. Ah, mais donc c'est un vrai.
Oh là là. Oh, mon dieu.
Ah ouais, donc c'est un vrai truc.
Live from Chicago, this is the launching of the Lingerie Football League. It has been much talked about, much anticipated. Finally, it is a.
Donc il y a vraiment une ligue de football de lingerie.
Bah, c'est ce qui était marqué.
Lingerie Football League.
Lingerie
Football League. Here at the Sears Center in Chicago.
C'est des vieilles images, hein, on est d'accord. Hein. Je suis pas sûr que ça existe encore aujourd'hui. Hein.
2009.
Folks, it's not about that. These ladies are serious. Okay. Très bien. C'est intéressant. J'irai me renseigner plus en détail à la fin de cette interview. C'est
long parfois.
Non, puis tu vois là, juste à taper ça, les tous les mots qui sont sortis direct, c'était sexy, machin, truc. C'est la gangrène du sport féminin.
Ouais.
Ah, bon.
Désolé de t'avoir trigger.
Ah ouais, grave.
C'était pas du tout.
Non, t'inquiète.
C'était vraiment une question basique de base qui était. Vraiment, est-ce qu'il y a des meufs qui font du foot?
Est-ce qu'on est vraiment surpris en vrai?
Non, on n'est pas vraiment surpris.
Non, mais bon, enfin.
Mais d'un autre côté, on est quand même en 2021, ça serait bien que ça.
Ah non, mais arrêtez ça, quoi, s'il vous plaît. Enfin, tu vois.
Ça serait bien que ça
cesse. C'est fatigant, surtout que. Excusez-moi, mais les. Pour interviewer des nanas dans le sport, putain, c'est vraiment pas les valeurs qu'elles veulent. Qu'elles veulent transmettre, quoi. Donc, c'est sûr que ça réduit à une sexualisation qui est terrible.
Mais c'est pas ça, c'est que si les mecs se mettaient en slope encore, pourquoi pas?
Oui, mais bien sûr. Alors, quelle est l'info? Oui, j'allais dire les mecs, mais justement, en plus, dans un sport de contact comme ça, qui est tellement dangereux, enfin, c'est violent, hein, tu vois. Protégez-la au lieu de les mettre en lingerie, là, tu vois. Enfin,
bon. Bah, elles ont des épaulettes.
Oui, elles ont des épaulettes.
Et un casque.
Ouais, super.
Ceci dit, je sais pas si les mecs ont des gros plastrons, etc., sur leur torse.
Je connais pas. C'est quand ils font des bons plaquages. Quand même.
Suffit de voir le nombre de journalistes sportifs femmes. Bah oui, il y en a. Ouais. Il y en a pas. Enfin, la parité n'est pas vraiment.
Ils ont fait. Enfin, ils savent pas exactement en fait combien il y a de journalistes femmes aujourd'hui à l'actuelle en France, mais ce qui est dit, ce serait à peu près 300 femmes sur 3000. Journaliste sportive, voilà, sportive, donc très peu, hein, 10% en gros, donc oui, il y a très peu de femmes dans le journalisme sportif à l'heure actuelle, absolument.
Il est temps de vous y mettre.
C'est pas le temps de s'y mettre, je pense que, enfin, il y a plein de nanas qui ont envie de se lancer, après, je pense qu'il y a plein de choses qui sont compliquées aussi, tu vois. Quand on parlait des modèles, effectivement, je pense qu'il y a plein d'années qui n'osent pas. Et moi, la première, parce que moi, à la base, si tu veux, c'était vraiment ce que je voulais faire.
Ah ouais, shit.
Je te jure. Bon,
tu l'as pas dit, ça.
Non, je l'ai pas dit, okay. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, et de même petit, je disais, ouais, moi, je veux faire du journalisme, j'ai envie de commenter du sport à la télé et tout. Et j'ai même, à un moment donné, failli reprendre des études de journalisme. Que j'ai pas fait parce que j'ai été embauchée à ce moment-là dans une boîte et j'ai choisi de travailler.
Ouais.
Mais je l'ai un peu regretté. Et du coup, tu vois, et je l'ai pas fait aussi parce que je me suis dit, ouais, je me suis censurée, en fait, tu vois. Et je pense qu'il y a plein de nanas qui font ça et qui osent pas se lancer parce que c'est un milieu qui est aussi masculin, parce qu'on a peur peut-être de aussi pas trouver sa place. Il n'est jamais trop tard, Cléo. Merci. Bah oui. Bah c'est un peu ce que je fais maintenant, tu vois. J'ai raccroché les wagons.
J'allais dire, en fait, t'as plus vraiment besoin de faire des études parce que t'es vraiment en train d'apprendre le métier sur le.
Bah c'est ça, ouais. Ouais, c'est.
Comment on dit?
Sur le tas.
Sur le tas.
Gay. C'est ça. Oui, complètement. J'ai réussi à raccrocher les wagons et à finalement faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Mais tu vois, ça m'énerve de me dire que pendant des années, j'ai pas osé le faire. Et je pense que c'est le cas de plein de nanas et les filles. Tu vois, Orlane qui fait justement des études de journalisme.
Bonjour Orlane. Ça arrive, dit-elle. Bah voilà. Oui, c'est cool.
Ah ouais, non, mais c'est super qu'il y ait des nanas qui se lancent et qui le fassent et qui ont pas peur, quoi, tu vois, et qui se disent, bah ouais, mais en fait, je vais prendre ma place, c'est du travail, c'est comme dans tout, en fait, tu vois, c'est pas. Mais dans certains domaines, c'est encore un peu.
Ouais,
un
je
peu
crois
compliqué.
Que quand t'es dans un environnement où c'est pas. Où on t'encourage pas, ou ouais. Voire même on te rabaisse, où on te fait chier toute la journée parce que
t'as
juste.
T'as bien vu le docu de Marie Portolano. Voilà. Donc, tu vois, c'est symptomatique, et elle le dit, c'est systémique, en fait. C'est un problème du système. Donc, mais les choses bougent, et surtout, c'est à nous de prendre notre place aussi, tu vois, et d'arrêter de s'excuser, d'être là.
Et ton père qui a l'air d'être plutôt du genre à pousser ses filles, etc.
Ouais.
Enfin, tu me racontais tout à l'heure qu'il était entraîneur de ta soeur.
Ouais, de boxe.
T'en as jamais parlé avec lui?
De?
Bah, justement, de tes peurs, de tes appréhensions, etc. quoi.
Ouais, c'est quoi ça?
C'est Vince qui nous a filé 5 bits parce qu'il peut. C'est des petits sous.
Waouh, c'est bien ça.
Ça fait plaisir.
Waouh, trop cool. Est-ce qu'on a déjà discuté de ça? Bah pas tant que ça en fait parce que je pense qu'il était très investi dans la carrière sportive de ma sœur, pas parce qu'il était son entraîneur et que il l'a vachement poussée parce qu'il s'est rendu compte aussi qu'elle avait des capacités dans les sports de combat en l'occurrence. Et moi, dans tout l'aspect sportif, il a toujours été extrêmement en retrait.
Ok.
Ouais. Il m'a déjà parce que moi j'étais dans un sport qu'il connaissait pas du tout, qu'il maîtrisait absolument pas Et voilà, tant que j'étais heureuse, lui, j'étais content. Mmh. Mais il sait pas, il a pas du tout, il a pas.
Il t'a pas poussé.
Il m'a pas poussé. Il m'a toujours dit, fais les trucs qui te font kiffer. Ça, j'ai de la chance. J'ai vraiment des parents qui m'ont toujours dit de faire ce que j'avais envie de faire. Voilà.
Et là où peut-être il poussait plus ta sœur.
Ouais, complètement. Okay. Ouais, ouais. Je pense que lui, il l'a vraiment poussé dans ça parce qu'il sentait qu'il y avait du potentiel. Moi, pas du tout. Moi, il m'a dit, tu fais ce que tu veux, sois heureuse. Mais maintenant, il est content de voir parce que j'ai pris des chemins détournés. Au début, le sport, je l'ai un peu mis de côté, même si c'est dans mon ADN. C'est moi la con, ça, toujours, mais c'est vrai, tu vois. Et je suis plutôt allée dans les domaines de la culture, de l'art. Je pense un peu aussi, je me suis dit, oh, moi, je vais me différencier de ma famille, tu vois.
Et de ma grande sœur.
Et de ma grande sœur, et de mes parents qui sont profs de PS et tout. Et en fait, bah, tu vois, je replonge la tête dedans quelques années après. Et je crois que ça lui fait plaisir aussi de voir que, bah, que je garde un pied là-dedans et
à ta manière.
À ma manière, voilà, bah oui, parce que je suis pas sportive professionnelle, malheureusement. Mais
comment ça, t'es pas sportive pour...
Bah ouais, non, j'ai pas déjà.
Là, pour le coup, c'est trop tard.
Ah bah là, c'est un peu tard. Oui, oui, écoute, là, j'ai 30 ans dans 3 mois. Ouais, ouais, clairement, c'est un petit peu tard. Ouais. Et puis, si j'avais voulu, j'aurais pu le faire avant. Bon, d'ailleurs, j'étais dans un sport où la date de péremption est assez jeune, hein, par ailleurs, ouais. Mais à 22-23 ans, généralement, il n'y a plus grand monde qui pratique la gymnastique rythmique. Mais non, c'est trop tard. Donc bon, c'est pas grave, hein, tu trouves des subterfuges.
Comme faire un podcast.
Exactement.
Je t'avais demandé de venir avec une reco culturelle.
Tout à fait.
Est-ce que t'as un truc à montrer?
Ouais, carrément. J'ai mon petit sac à côté. Je pose mon micro.
Salut Sirius. Bonjour Peter, bonjour Castor Abeck, bonjour Amliso pour le follow. Ça fait plaisir. Ah oui.
Ouais.
Très bien.
Bonjour.
On est venu avec des BD.
On est venu avec des BD, absolument.
Des romans graphiques plutôt. Des romans, j'ai envie de
exactement.
Dire.
Ouais, c'est plutôt des romans graphiques,
ah,
tout à fait.
Quentin.
Tu connais ?
Bien sûr.
Ah, ben voilà.
Quentin, il vient de la bande de Mademoiselle.
Ah ouais ?
Voilà, je crois
qu'on... Pardon. Trop d'entrain.
Ouais, je crois qu'on a été le premier média à publier Quentin.
Ah ouais, super.
Quand il était
au tout début.
Il était bébé.
Ouais. Bébé bah écoute, bah voilà, tu vois.
Bébé
après,
dessinateur.
Alors j'ai choisi. Alors faut savoir que chez moi il y a énormément de BD.
Ouais.
J'adore ça. Il y a vraiment beaucoup de BD de tout style, etc. Là, je me suis vraiment focalisée sur deux BD qui avaient un lien avec la thématique que je traite, c'est-à-dire le sport. Voilà, et qui sont deux BD qui m'ont particulièrement touché. Alors, sans reprendre, on voit, c'est à l'envers, mais oula.
Non, ouais. C'est pas là.
Ah non, c'est à l'envers, ouais, c'est merveilleux.
C'est juste, tu vois, faut l'amener.
Voilà, qui m'ont particulièrement touché.
Ouais.
Jeu de mots. Mais pour les thématiques, en fait, qu'elles traitent, et aussi, bah, d'ailleurs, je suis quelqu'un qui adore globalement la culture. À l'époque où on pouvait, je faisais beaucoup d'expos, de spectacles, etc. Là, la lecture, maintenant, c'est un peu tout ce qui nous reste quand même, malheureusement, je trouve. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais mettre en avant des livres, des BD.
Il y a Netflix aussi,
ouais. Tout à fait.
Mais... T'es pas trop film ?
Si, j'adore. Ah. Bah, si, carrément.
Non, mais c'est pas, t'as fait une tête.
Oui, bah, Netflix, bah, parce qu'on a tous, c'est devenu notre refuge pendant
notre doudou,
Netflix. D'ailleurs, bah, cet autre roman s'appelle Spinning. D'ailleurs, il y a une très mauvaise série sur Netflix qui s'appelle Spinning et qui parle aussi de patinage parce que c'est une BD sur le patinage. Donc, ne la regardez pas.
Je crois que ma fille de 13 ans est en train de regarder, elle kiffe.
C'est vrai. Alors
elle,
oui, bah.
Elle a 13 ans, ça marche.
Oui, voilà. Alors peut-être, j'étais peut-être pas la cible, en fait, de cette série-là.
Je crois pas.
Je l'ai regardée jusqu'au bout quand même. Il y a une saison et ça n'a pas été reconduit, ce qui est quand même, à mon avis.
Non, c'est plutôt une comédie pour les ados, non ?
Bah oui, c'est ouais. Oui, c'est oui, mais j'aime bien moi ce genre de truc.
Ouais, je comprends.
Mais celle-là non, c'était pas terrible. Bref. Donc oui, donc du coup, j'ai ramené deux BD, donc Spinning de Tilly Walden et Touché de Quentin Zution.
Alors, comme ça qu'on dit. Oui, Quentin Zution.
Je veux pas dire je veux pas écorcher.
Zution. Oui.
Je veux pas écorcher. La première du coup qui est au revoir.
Vas-y,
ouais, pardon.
Vas-y. Je t'en prie, tu peux.
Excuse-moi.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film ?
En fait, bah, parce que c'est les protagonistes sont des femmes,
ouais.
dans les deux BD, et en fait, je trouve que c'est le c'est la thématique, c'est-à-dire que dans la... Alors, c'est assez différent l'une et l'autre. Donc, la première, Spinning de Tilly Walden. En fait, c'est assez autobiographique. Elle raconte sa vie, en fait, parce qu'elle-même a fait du patinage à assez bon niveau quand elle était plus jeune. Et donc, elle explique, je crois qu'elle elle a autour de 10, 12 ans, je crois, dans cette BD, et elle explique en fait comment elle s'est découverte elle-même. En fait, c'est une quête, un peu une quête de soi, une découverte de soi, la découverte de son homosexualité aussi, à travers le sport, à travers la relation avec les autres, avec ses camarades de patinage, et toute cette période où ça bouillonne, où on comprend pas tout ce qui se passe, voilà, et où en plus elle avait vraiment envie de réussir dans le patinage. Enfin voilà, il y a tout ça qui est mis en avant et qui est, c'est hyper touchant. C'est les dessins sont super aussi, c'est très beau. Et voilà, c'est vraiment, je trouve que ça parlera à tout le monde, de, alors peut-être plus aux femmes, mais de cette recherche de soi, d'apprendre à se connaître quand on est plus jeune, où on est complètement perdu, ou
ça te parle?
Ouais, ça me parle. Où tu te construis aussi vachement par le sport, tu vois. Moi, je sais que très clairement, le sport, ça a été extrêmement bâtisseur dans ma jeunesse et de la personne que je suis aujourd'hui.
En quoi ça t'a construit?
Bah, ça m'a construit déjà en interaction avec les autres, parce que moi, je sais que mes très bonnes amies encore à l'heure actuelle, c'est des gens que j'ai rencontrés dans le cadre du sport.
Il y a un aspect d'équipe en plus dans la GRS,
complètement.
C'est individuel.
Alors, c'est pas que individuel, parce que t'as aussi des compétitions de groupe. Mais c'est, je trouve que...
Enfin, je veux dire, t'es sur le tapis, t'es toute seule, quoi.
Bah, pas forcément. Non, tu peux être à plusieurs.
Ah bon?
Ouais, il y a des compétitions de groupe.
Comment ça?
Ouais,
non,
ouais.
Mais non, mais enfin, je veux dire, quand tu passes...
Quand tu passes, tu peux être jusqu'à, je crois, dans certaines catégories, tu peux être une dizaine sur le praticable en même temps.
Ok.
Ouais.
Je savais pas.
Ouais. Bah, moi, tu vois, sur mes dernières années, je faisais des compétitions en groupe, dans la DN1, ce qu'on appelait la Division Nationale 1, où on était 5 sur le praticable.
Okay.
C'était un enchaînement à plusieurs.
D'accord.
Ouais.
Avec une choré et tout, quoi.
Ouais, exactement.
Ok, d'accord.
Tout
je
à fait.
Je ne savais pas.
Mais c'est. Mais enfin, ce n'est pas fou. Qu'individuel. Et en fait, voilà, je trouve que ça, moi, ça m'a touchée en plein cœur, parce que je me suis reconnue dans cette petite Tilly Walden qui se cherche, qui... Je trouve qu'on... Ça... Et peu importe le sport, d'ailleurs, tu vois. Là, c'est du patinage artistique, mais ça peut être n'importe quel sport. Et c'est vrai que bah, moi, oui... Sans ma pratique sportive, je sais que ça aurait pas été la même chose. Ça m'a aidé à vaincre ma timidité aussi, parce que j'étais vraiment très 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 timide quand j'étais petite. Limite maladif, quoi. C'était, tu vois, quand tu vas chercher le pain à la boulangerie, j'étais en PLS, ouais. C'était vraiment compliqué. Donc, de donner en spectacle comme ça aussi devant des gens, les compétitions, enfin, ça te forge, et voilà, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé là-dedans, et je trouve que c'est hyper touchant, et carrément.
Ça t'a appris l'esprit de compète aussi?
Ouais, à fond. Ouais, la compétition, c'était peut-être spontanément quelque chose que j'appréciais pas comme ça, de prime abord. Et en fait, tu te prends quand même au jeu, je trouvais, l'esprit de compétition, mais l'esprit de compétition, pas vouloir à tout prix écraser les autres, ça c'est vraiment un truc que je ne supporte pas. C'est que tu peux avoir envie de gagner sans forcément être dans ce truc d'écrasement, et au contraire de esprit plutôt de groupe et de se porter vers le haut, et voilà, de solidarité. Et tu peux avoir envie de gagner sans forcément rouler sur tout le monde, quoi.
Ma bataille pendant des années chez Mademoiselle, ça a été parce qu'en fait la plupart des filles que je recrutais en fait faisaient pas de sport. Bon, c'est un vrai truc ça aussi, hein. Tu vois, il y a des études qui sont sorties, je sais pas si t'avais suivi, en fait les filles font du sport de la même façon que les garçons jusqu'à au collège.
Ouais, exactement.
Et puis après ça s'arrête.
Il y a une grosse chute.
Voilà. Et donc ça amène sur plein d'autres choses aussi, sur notamment la confiance en toi, et puis l'apprentissage. Il y a aussi un aspect, je crois que c'est aussi terrible, parce qu'il y a aussi un aspect de sororité qui est, de ce fait, l'a mis un peu de côté, parce que t'apprends aussi à te rendre compte en fait que les filles sont cool quand tu travailles, enfin quand t'es en équipe avec elles, quand tu fais du sport avec elles. C'est quoi une compétition saine? On pourra y revenir de dessus, mais tu vois, typiquement, c'est le genre de question que j'avais quand je bossais chez Mademoiselle, c'est que la plupart des meufs que je recrutais, elles détestaient l'aspect de compétition.
Ouais,
si tu leur disais, comment on fait pour être les meilleurs, etc. Elles étaient là, non mais moi en fait ça m'intéresse pas, ça veut dire quoi la compète, etc. Et je me rendais compte en fait qu'elles avaient jamais fait pratiquer de sport, ouais. Et que pour elles il y avait vraiment ce truc de la compétition, c'est écrabouiller les autres,
ouais.
Alors et qu'elles n'avaient jamais par le sport. Je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de te rendre compte en fait, c'est juste te dépasser toi-même,
ouais.
Et in fine finir par devenir meilleur que les autres, mais c'est pas absolument l'objectif final, quoi.
Et ça c'est très important, le côté de dépassement de soi déjà, et de prendre conscience des choses qu'on peut faire, des capacités qu'on a. Et encore, il y a une autre notion moi que je trouve cool, et c'est que des fois les aspects négatifs de la compétition, juste parce que t'as des gens qui veulent écraser les autres, parce que des fois tu vas faire de la merde, enfin tu vas te sentir nul, c'est des trucs qui sont hyper compliqués que t'as pas envie de vivre. Mais alors punaise, je pense que même des fois en fait c'est là dedans que ça te fait le plus grandir encore, ouais. C'est d'apprendre, de prendre conscience que il y a plein de merde en fait, hein, en face de toi, tu vois, enfin de choses négatives du moins, et d'apprendre aussi à vivre avec, à les surmonter, et à se dire que c'est pas une fatalité et que en fait on est quand même globalement pas dans le monde des bisounours, et c'est vrai, tu vois, je trouve que c'est quoi une compétition saine. Je pense que la globalité, ça dépend des sports, hein. Par contre là, je pense qu'il y a vraiment une notion de sport aussi qui diffère, mais globalement une compétition c'est pas très sain. C'est clair, tu vois, parce que t'es quand même, moi dans le sport en plus dans lequel j'étais, franchement la bienveillance ça existait pas trop.
Ouais. Mais même entre vous
Alors si, quand les nanas d'un même club, ouais. En fait c'est ça le truc, c'est que t'avais vraiment cette notion de club, où bah, quand t'es du même club tu supportes à fond, et par contre quand c'est des nanas qui sont contre toi, qui sont pas du même club, ça va bitcher, mais de l'enfer. Tu vois, c'est limite.
C'était pas trop fair play, quoi.
C'était pas fair play. Okay. C'était assez compliqué. Alors, ça va pas huer ou quoi que ce soit, tu vois, on n'est pas non plus. Mais il y a des trucs très traumatisants. Et en fait, moi, des fois, quand j'étais pas en compétition, que j'étais dans les gradins et que je regardais mes copines, t'entends des choses dans les gradins, c'est horrible. Ça peut être traumatisant quand t'es une gamine, des mamans, ouais. C'est terrible, tu vois. Et oh là là, t'as vu son juste au corps, c'est vraiment trop moche, ça lui va pas du tout. Mais des trucs même sur le physique, pas forcément sur la performance en plus, qui sont très compliqués. Et surtout à ces âges-là où t'es hyper jeune et où tu te construis. Mais voilà, après moi, je pense que ça m'a fait prendre conscience de ça aussi quand j'étais plus jeune, et maintenant d'avoir pris un peu d'auteur là-dessus. Et après voilà, moi la compétition, je regrette pas du tout d'en avoir fait. Ça a été vraiment des gros traumatismes quand même, je pense moi, dans ma jeunesse. Mais ça m'a aussi vraiment permis de dépasser mon stress qui était très présent quand j'étais plus jeune, ouais. et de prendre confiance en moi, quoi.
Et puis t'apprends à perdre.
Ouais,
je trouve que ça aussi c'est un
mais
truc
bien sûr.
Qu'il faut apprendre quand t'es gamin, qui c'est dur à apprendre à perdre.
Mais bien sûr, tu vois, un des plus beaux souvenirs que j'ai de compétition, c'est une de mes dernières compètes où on s'est complètement troué. On a fait avant-dernière, je crois, de la compète, c'était le championnat de France, c'était vraiment notre objectif. On s'est chié, mais alors le truc c'est parti en cacahuète totale. Et là et ça a été un hyper, j'ai pleuré je crois pendant 2 jours derrière, enfin le truc vraiment, j'ai l'impression d'avoir perdu un membre de ma famille. Et en fait avec le recul ça reste un de mes meilleurs souvenirs, parce que il y avait une effervescence pendant ce moment-là, qu'on était toutes, donc c'était en groupe, toutes les 5, on était hyper soudées, on avait envie de faire bien, il y avait une énergie incroyable, et voilà, et tu vois, même alors que c'est probablement un des résultats les pires qu'on ait fait, ça reste un des meilleurs souvenirs maintenant, mais avec le recul, tu vois, tu m'aurais dit ça 2 jours après, je t'aurais craché au visage.
Alors attendez, je corrige un message à cause de l'autocorrect. J'ai toujours détesté la notion de compétition, nous dit Lucille. Dans les sports étant plus jeune, je le comprends mieux maintenant. Mais j'ai trouvé mon bonheur en faisant de la natation synchronisée pendant 9 ans avec des meufs géniales. Oui, c'est ça, tu avais mis des mecs géniales et j'allais dire bah, peut-être qu'il y avait des mecs aussi qui faisaient de la natation synchronisée, pourquoi pas. Mais,
ça se démocratise.
Le grand bain, notamment.
Exactement.
Où la seule compétition était celle d'arriver à faire un beau spectacle à la fin de l'année. Je pense que c'est à chacun de trouver quel challenge lui va. Le challenge artistique était pour moi plus motivant que celui de la performance physique ou des championnats. Bah, ouais, mais il y a aussi une forme, effectivement, il y a aussi une forme de compétition, même si c'est interne et c'est pas contre les autres.
Ouais.
C'est pour finir par se dépasser soi, et ça déjà de base.
Et après, cool. En fait, ce qui est bien aussi dans le sport, c'est que tu prends du bonheur là où t'en trouves. Donc, il y en a certains vraiment qui se dépassent par le côté compétition. Parce que c'est un truc, vraiment, c'est l'aspect compétitif qui va les faire vibrer. Et t'en as d'autres, oui, c'est ça, c'est l'aspect artistique peut-être de certaines disciplines. C'est le fait d'être avec d'autres gens, le côté sororité, le côté... Enfin, ouais, en fait, tu trouves que tu trouves toujours ton...
Ouais.
ton bonheur.
Quand c'était contre le temps, quoi, tu vois.
Exactement. Ouais, non, tu trouves toujours des choses positives dans le sport. Et les notions du sport, elles sont quand même jolies, quoi. Donc ça, faut pas l'oublier. Et je trouve que c'est un catalyseur de plein de belles émotions, de plein de belles rencontres. Et c'est vrai que je m'en rends peut-être compte maintenant un peu plus avec le recul, ouais. Parce que quand t'es dedans, c'est compliqué en fait des fois. Mais c'est génial. Enfin voilà, moi, je peux juste.
Mais c'est surtout que je trouve que tu. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour. Tu fous les gamins dès le plus jeune âge dans la compète. Mm. Je sais pas s'il y avait, enfin dans le sport pardon, je sais pas s'il y a un meilleur endroit pour de façon très naturelle, tu vois, apprendre ces valeurs là en fait. J'ai cherché hein, tu vois, parce que mes filles par exemple, moi j'ai deux filles qui ont 13 et 15 ans. Et l'un de mes grands drames de ne pas réussir à les avoir foutues dans un sport et dans un sport co, quoi, tu vois.
Ouais.
Et bon, pour plein de raisons. Mais en fait, j'ai cherché un peu comment tu fais pour les mettre dans un truc où elles vont baigner comme ça de façon très naturelle. J'ai pas trouvé.
Ouais, après, ouais, ça dépend des personnalités. Il y en a qui vont plus s'épanouir dans l'aspect artistique, tu vois. Moi, je trouve qu'à partir du moment de toute façon où t'as une activité dans laquelle tu t'épanouis, c'est cool. Ça peut être le sport, mais ça peut être le dessin, ça peut être le théâtre. Enfin, tu vois, ça peut être plein de choses. Parce que tu retrouves aussi ces valeurs-là et ces notions quand même dans d'autres activités qui ne sont pas du sport. Et puis, voilà, je pense qu'il faut apprendre à se connaître. Enfin, c'est rigolo parce que sur une des dernières interviews qu'on a fait avec Enzo Lefort et Kitsi, lui est un compétiteur monstre. C'est ça qui le fait carburer, et sa compagne, elle fait du patinage justement quand elle était plus jeune, et elle était tétanisée par la compétition. Elle disait, mais vraiment, moi, ça me... Au contraire, l'aspect plaisir, il partait complètement à partir du moment où il y avait les compétitions, je devenais nulle, ça me faisait perdre tous mes moyens, c'était une catastrophe. Et elle se plaisait vraiment juste dans l'aspect loisir. Donc voilà, je pense qu'il faut juste prendre là où c'est bien et positif pour nous, quoi.
L'esprit du sportif est aussi vachement dépendant de celui du ou de la coach. La façon d'entraîner, la vision de la compétition du coach va beaucoup déterminer la vision de la compétition du sportif et de la sportive. Vraiment, ce micro, il a un problème. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc moi, j'ai fait du basket pendant longtemps et j'ai coaché des jeunes aussi. Et ça me fascinait de voir à quel point il y avait des coachs qui poussaient leurs gamins. Tu vois, par exemple, il y avait 30 points d'écart et les mecs, ils étaient là, il faut aller jusqu'à 60, quoi. Tu vois, c'était même pas forcément pour les écrabouiller, juste pour les pousser à fond. Ça, vraiment, c'est un truc. Du mal à comprendre, quoi.
Ouais. Bah ça, c'est compliqué aussi. Ouais. La partie coaching, c'est un autre sujet encore. Mais oui. Après, déterminer la vision du sportif ou de la sportive en fonction de celui du coach, pas forcément, je pense. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, à niveau professionnel, les sportifs, ils changent assez souvent finalement d'entraîneur aussi. Je pense que c'est compliqué de trouver un équilibre qui est positif. Après, quand c'est dans du loisir, c'est sûr que c'est plus délicat parce que tu vas mettre tes enfants dans un club, t'as un entraîneur, tu le choisis pas. Enfin voilà, donc ça peut ne pas matcher aussi. Et il faut que ça reste, encore une fois, il faut que ça reste positif et pas que ça devienne néfaste pour ton enfant.
Au vu du métier de ses parents, est-ce que Cléo pense que les profs de sport ont un rôle crucial dans la déconstruction des clichés dans le sport ?
Ah mais grave, à fond. À fond, je pense qu'en fait, déjà, pour beaucoup d'enfants, le premier rapport au sport que tu vas avoir, c'est l'EPS à l'école. Pour beaucoup, beaucoup d'enfants. Et je pense que très clairement, les profs d'EPS ont un rôle à jouer. Et moi, ma maman, qui du coup est une femme, est professeure d'EPS, elle a fait toute sa carrière, elle a été depuis de 24 ans à maintenant, elle est à la retraite. Elle a fait ce métier-là et elle a rencontré au sein de la profession beaucoup de difficultés, même vis-à-vis de ses collègues. Ah. C'est-à-dire qu'elle-même avait du mal à se faire accepter en tant que professeure d'EPS, femme, dans un milieu qui est aussi extrêmement masculin, où les professeurs d'EPS sont majoritairement des hommes. Et moi, je l'ai vu, ça. Donc, voilà, quand elle rentrait le soir à la maison complètement déconfite parce qu'elle s'en était pris plein la gueule sur certaines compétitions avec ses élèves et tout, je me suis dit, waouh, ok, il y a vraiment un problème. En fait, même déjà dans un système d'enseignement, c'est-à-dire que même des fois, entre les professeurs, tu vois, de BS, c'est compliqué, quoi.
Cool.
Donc après, vas-y pour transmettre des bonnes valeurs aux enfants que... Enfin bon, bref, donc oui, je pense qu'il y a clairement un enjeu qui est important là, et il faut pas sous-estimer la puissance des professeurs d'EPS, qui est souvent une profession qui est un peu moquée et où on a l'impression qu'ils servent à rien. Tu vois, il y a un truc un peu le cours de sport, on s'en fout. En fait, non, je pense que vraiment, t'as plein de choses.
Surtout dans les comédies françaises.
Ouais, bah alors là, très clairement, c'est une catastrophe. Hein. L'espèce de gros beauf qui branle rien et tout, ouais. c'est terrible. Et non, je pense qu'il y a...
Tu sens que les artistes ont été un peu traumatisés, tu vois, par
les profs de sport.
Bah, vu comme ils les représentent après, tu vois.
C'est vrai.
Les scénaristes.
Bah ouais, mais non, mais justement, je trouve que, ouais, il y a dès l'école, en fait, et dans le cours de sport, faut pas sous-estimer, c'est une discipline qui est hyper importante. Et moi, encore une fois, tu vois, de mon point de vue, je pense que j'ai eu des expériences assez positives. Quand j'étais au collège, j'adorais le sport, j'étais sportive et j'avais envie, moi, d'aller jouer avec les garçons. Et c'est vrai que souvent, tu vois, ça c'est un truc aussi qui existe encore beaucoup. T'as les garçons qui jouent d'un côté, t'as les filles qui jouent d'un côté et ça se mélange pas. Et là où moi je me suis rendu compte que tout était possible, c'est que finalement j'ai eu des professeurs de PS qui étaient absolument fantastiques, pas tous, mais une partie. Et oui, ils nous faisaient jouer tous ensemble, et malgré les différences de niveau des fois, alors après, oui, tu fais par niveau, mais à un moment donné, tu mélanges tout le monde. Et moi, du coup, bah, je jouais avec les garçons, et en fait, je me suis rendu compte que les garçons, ils kiffaient aussi jouer avec moi, et même si peut-être j'étais moins bonne sur certaines disciplines, ou pas d'ailleurs,
bah oui.
Et c'est cool, en fait, déjà, dans ce cadre-là de scolaire, de se rendre compte qu'on, bah, tout le monde joue ensemble, il n'y a pas de différence. Et en fait, à partir du moment où tu te rends compte déjà de ça, quand t'es plus jeune et qu'on te montre que c'est possible, et que c'est normal, c'est même pas que c'est possible, que c'est normal, voilà, ça change beaucoup de choses, je pense, déjà.
Je me rappelle d'un match de foot quand j'avais 9-10 ans où les adultes étaient autour du terrain plus vénères que les gamins qui jouaient.
Mais bien sûr, ah, oui. Mais bien sûr.
C'est terrible.
C'est clair.
On a fait grève avec des meufs de ma classe au collège pour dénoncer les commentaires humiliants sur notre physique et extrêmement sexistes que s'autorisaient notre prof de
voilà,
sport.
Tu vois, non, mais typiquement...
Ça, c'est...
C'est...
Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est... Enfin, je crois que sur cette génération-là, là, qui va être élevée à Insta, etc., ça risque d'être compliqué, quoi. Alors peut-être que les profs de sport ont changé aussi, quoi.
Ouais. Bah, oui. Enfin, j'espère. Après... Ouais, bah t'as toujours ça dépend des gens, hein, malheureusement. Donc comme dans toutes les disciplines, hein, t'as des profs de français qui étaient trop bizarres, t'as des profs de sport qui étaient malveillants, oui. Malheureusement. Des
La
fois.
Base.
On a gagné. Oh non, je regardais.
Bah oui, Lucille, bah oui, forcément, vous lui avez rabattu.
Mais c'est bien, c'est super, tu vois, c'est top.
Bah oui.
Les prises de conscience aussi, parce que des fois, c'est tellement ancré en fait chez les gens qu'ils se rendent même pas compte que ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est pas bien et c'est pas normal. Pardon.
Pour revenir à Quentin.
Oui, alors, deuxième film. Waouh, ça.
Non, mais c'est le but, hein. Tu vois, on a le temps. Enfin, c'est comme dans ton podcast, hein. On peut durer une heure ou une heure et demie, si tu veux.
Et donc, le deuxième, donc, de Quentin Zution. Donc là, c'est une autre thématique, en fait. C'est une BD qui raconte des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Et en fait, en réaction à ça, elles se sont inscrites dans un atelier d'escrime thérapeutique. Et c'est là, donc ça raconte un programme d'un an dans la BD pour se libérer et pour apprendre, il le dit très bien, il dit attaquer, se protéger, toucher, qui sont vraiment en fait ce que tu fais en escrime et qui font écho à ce qu'elles ont subi et comment elles se reconstruisent en fait à travers le sport et à travers une pratique sportive. Et voilà, et je trouvais que c'est très très beau, c'est très émouvant. Tu suis le parcours de femmes qui ont toutes des parcours différents et qui ont subi toutes la même chose. Et voilà, et c'est super beau.
C'est très touchant le dessin de Quentin.
C'est très beau et le dessin est magnifique. C'est vraiment très beau. Je peux juste vous conseiller d'aller le lire. Et puis c'est vrai que ça fait écho à des vraies associations qui existent. Il y a une association qui s'appelle Fight for Dignity. Et en fait, c'est la même chose. En fait, c'est se reconstruire, mais à travers la pratique du karaté. C'est des vraies associations qui existent, c'est génial parce que bon, on peut se reconstruire à travers le sport, parce qu'aussi il y a la notion
confiance.
De corps aussi qui est très présente, se réapproprier son corps après des violences sexuelles par exemple, enfin ou autres. Et je trouve que c'est aussi au-delà, on parlait de l'aspect compétition et tout, mais il y a un aspect très bienveillant aussi dans la pratique sportive qui peut être extrêmement réparateur, hein, sur certains points.
Bien sûr.
Et qui est complètement qui est mis en valeur de façon extraordinaire dans ce roman graphique de Quentin. Okay. Voilà.
Et pour revenir à Spinning, c'est un beau pavé.
Ah alors ouais, Spinning, il est
Bah, si vous cherchez une occupation.
Il est assez conséquent. Après, ça se lit très très vite. Hein. Moi, j'ai dû le lire en 45 minutes, je pense. Ouais, ouais, une heure. Allez, une heure. Mais ça se lit assez vite et on est tellement dedans que tu dévores. Hein. Tu vois pas le temps passer. Mais c'est l'avantage aussi de la BD. Hein. Il y a moins de lecture à un moment donné. Mais non, voilà. Non, c'est vraiment deux romans graphiques magnifiques, très touchants et que je conseille vivement de lire. Voilà.
Koneko vous a mis les liens dans le chat et moi je vous mettrai les liens si vous écoutez en podcast dans les notes. Merci beaucoup Koneko, c'est cool. Écoute, on a fait le tour ou alors t'avais d'autres choses dont tu voulais causer?
Oh bah moi tu sais, on peut parler pendant des heures, hein. Il n'y a pas de problème, tu me lances sur n'importe quel sujet, moi je suis partie, je ne m'arrête plus. Non mais c'est super, enfin moi déjà merci beaucoup hein, de me donner cet espace de parole. C'est vraiment
podcast gagné de connu, votre podcast gagné
c'est connu. Gentil. Bah écoute, allez l'écouter. Non, c'est là qu'on regarde. J'arrive pas. Moi, je me regarde du coup comme une débile. Allez écouter le podcast. Et oui, non, je pense. Et en fait, c'est ça aussi qui est important, c'est que je pense qu'on n'est pas obligé d'être des grands fans de sport pour aller écouter le podcast, parce que on parle de tout. Ouais, ouais, on parle pas forcément de sport. En fait, c'est des histoires d'humains. C'est des sujets de société. C'est voilà, il y a pas. Il y a besoin d'être un aficionados ultime du sport pour apprécier, je pense, les discussions. Donc c'est vraiment accessible à tous. Et c'est pas parce que c'est des femmes que ça ne s'adresse aussi qu'aux femmes. Pas du tout. Ça s'adresse à tout le monde.
Quel drame.
On est principalement écoutés par des femmes quand même.
Ah ouais?
Ouais, à grande majorité.
Je crois qu'après il y a beaucoup de femmes qui écoutent des podcasts aussi.
Ouais. Mais voilà, on n'est pas sectaire. Tout le monde est le bienvenu, bien au contraire. C'est comme ça qu'on construit un monde plus équilibré. Les femmes, les hommes, ça va partir. Non, mais c'est vrai.
T'as raison.
Donc voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Cléo. C'était cool.
Bah, merci à toi. Bah ouais, carrément.
Donc moi, je vous donne rendez-vous mercredi et vendredi, donc les lundis, les mercredis et le vendredi ici. Tu peux même venir me voir si tu veux quand t'es pas à l'antenne, hein. Cléo, merci beaucoup.
Et ben merci à toi.
RDV sur Championne du Monde, yes. Vous cherchez dans votre tapis de podcast Spotify, Nani, Nana, vous
mettez
connaissez.
Mettez des notes,
tu mets 5 étoiles.
5 étoiles.
Et puis un petit commentaire sympa, ouais, ça fait plaisir.
Oui.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers, with rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.